Frères et sœurs, veuillez excuser une voix quelque peu caverneuse qui est en raison inverse de l'altitude de la montagne, mais c'est bien involontaire. De même que la météo donne parfois un avis général de tempête, au moins sur les côtes bretonnes, la liturgie nous donne aujourd'hui un avis général de joie. Là où vous êtes, vous ne le distinguez peut-être pas, mais le troisième cierge au bas de l'autel est enrubanné et enrichi de deux roses. Et comme vous l'avez peut-être vu, le célébrant principal est lui aussi en rosie. Le rose est la couleur de la joie dans l'Église. On ne s'en souvient pas toujours. Sophonie prophétise une double joie. Tout d'abord, la joie de la fille de Sion. La tradition patristique identifie la fille de Sion à Marie. Cette invitation à contempler la joie de Marie est tout à fait unique. Une joie qui prend évidemment toute son envergure dans le Nouveau Testament. Ton Seigneur est en toi, prophétise Sophonie, sans imaginer un instant la vérité charnelle, humaine, qu'il est en train d'annoncer. Dans un livre intitulé « L'énergie spirituelle », Bergson démontre que la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a emporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Fin de citation. Il y a dans cette phrase quelque chose de tout à fait bouleversant, le lien entre la vie et la joie. La joie apparaît donc comme une conséquence de la vie, et non pas comme un donné brut qui surgit naturellement. La joie n'est pas donnée telle qu'elle. Il y a des tempéraments joyeux sans doute et d'autres qui ne le sont pas. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Elle apparaît comme une conséquence de la vie. En nous appuyant sur cette démonstration, nous pouvons comprendre que la joie de Marie est née de ce que la vie a pris chair en elle. Et quelle vie ! Marie s'est donnée totalement à un Dieu qui désire se donner totalement. Et pour accueillir la vie avec un grand V, Marie a dû envisager la mort. La mort par lapidation. C'est le sort des femmes adultères. Et à vue humaine, c'est ce qu'on aurait pu penser. Mais Marie n'a pas peur. Marie s'est donc absolument détachée d'elle-même, de son avenir, pour permettre à Dieu de venir en elle. Cette joie n'est pas seulement une victoire pour Marie, mais aussi pour Dieu. Dieu réalise enfin son rêve, comme dirait notre pape François. Et la joie de Dieu se communique à Marie. C'est donc une double joie qu'il nous est demandé de contempler à quelques jours de la nativité. Une joie silencieuse, humble, vraie, exacte, détachée. Sophonie ajoute que cette joie met Dieu en liesse. Une traduction antérieure faisait « danser Dieu ».« Dieu dansera pour toi ». Avez-vous déjà imaginé ce que cela peut être ? Le vocabulaire que nous entendions tout à l'heure respire tout de même cet élan, joie, allégresse, exultation, réjouissance. Nous sommes certainement trop peu sensibles à la joie de Dieu, qui est une joie incréée, mais qui peut tout de même être l'objet de notre contemplation dans la foi. Paul, dans la deuxième lecture, ne nous invite pas à autre chose lorsqu'il nous demande d'être dans la joie dans le Seigneur. Cette joie-là est le fruit d'une relation à Dieu, une relation à la vie qui est Dieu, comme le chante le merveilleux prologue de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était la vie. Nous entendrons cet Évangile le jour même, la messe du jour de Noël. Oui, la joie n'est pas une affaire d'activisme, mais de vie, de relation à un Dieu qui vit et qui nous demande de travailler à être libres et à vivre. À côté de cette joie surnaturelle, surgit l'Évangile de ce jour, qui nous parle d'actions humaines très incarnées. Vous l'avez peut-être remarqué. À trois reprises, la question posée à Jean-Baptiste revient : que devons-nous faire ? Nous avons tellement l'habitude d'être dans le faire. Dieu, lui, il est dans l'être. Il est l'être. Et Jean-Baptiste répond avec précision, sans hésitation. C'est l'homme de l'action, de l'invitation à une conversion active. Dans son idée sur la réalisation des prophéties, le Messie qui vient est aussi un homme d'action, victorieux par sa puissance, un homme d'esprit et de feu. Nous savons que Jean-Baptiste finira par douter de la messianité de Jésus. Il enverra des disciples lui demander: « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste devra lui aussi se convertir pour entrer dans cette joie dont il n'a pas encore idée à ce moment-là. La joie d'un Messie qui tressaille d'allégresse, un Messie dont le royaume n'est pas de ce monde. Et pourtant, assez curieusement, tout à la fin de l'Évangile, il nous est dit que Jean-Baptiste évangélisait, qu'il annonçait la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'une opposition, mais d'une préparation. Tout ce qui prépare la venue du Seigneur est de l'ordre de l'évangélisation, y compris lorsque cette préparation est intérieure, comme nous y invite tout spécialement le temps de l'Avent. Il faut donc nous laisser évangéliser intérieurement. Me revient à l'esprit un petit dialogue entre Mère Teresa et un journaliste, je crois qu'elle est assez connue, mais ça fait du bien de la vie monastique, on aime bien répéter. Un journaliste disait à Mère Teresa: dans l'Église, ça ne va pas très bien, que faudrait-il changer? Et Mère Teresa lui répond: vous et moi. La paix dans le monde commence par la paix dans notre cœur. Le reste, c'est très approximatif. Mais la paix dans notre cœur, ça, nous en avons la disposition. Alors une question se pose tout de même, comment s'articulent ces deux aspects, à la fois une joie surnaturelle dont je parlais avec Sophonie, qui est éprouvée par Marie d'une manière unique, qui est une joie incréée, qui pourtant se fait chair, c'est un peu compliqué pour nous, et à la fois une préparation active à le recevoir, qui est donc de l'ordre du faire. Comment réunir ces deux actions qui ont l'air l'une horizontale et l'autre complètement verticale? Eh bien, c'est très simple. Les deux doivent avoir la même source, est le même terme, non pas soi-même, la contemplation de nos petits progrès, mais Dieu. Dieu dans les autres, Dieu dans la création tout entière, et Dieu en soi-même. Et cela demande de nombreux détachements, progressifs, rassurons-nous. Se détacher de l'idée que nous nous faisons de Dieu, de l'idée de la joie, de l'idée de la vie, de l'idée de l'action de Dieu. Nous résumons toujours ça à nos petites expériences humaines évanescentes. Dieu n'a ni commencement ni fin. La joie de Dieu, c'est autre chose. Finalement, il s'agit de se détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est exactement ce que Marie a fait durant sa vie. Elle ne s'est attachée qu'à la vie de Dieu, et ce fut toute sa joie. Préparons-nous, nous aussi, à cette vie qui vient, afin qu'elle soit vraiment notre joie. Amen.